Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous
présenté, citoyens, au gouvernement provisoire de la République, une pétition pour demander l'abolition immédiate des lois et règlements qui oppriment les réfugiés polonais. En faisant déclarer les Polonais égaux à vous devant la loi, vous accomplirez le premier acte de la délivrance politique de la Pologne. Salut et fraternité, Adam Mickiewicz.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La crise ukrainienne en cours vient de mettre en lumière devant l'opinion publique une évolution importante pour l'équilibre de l'Europe, à savoir le poids grandissant de la Pologne dans la marche de notre continent. Sa dimension démographique, près de 40 millions d'habitants, sa situation géographique, la stabilité du chef du gouvernement, Donald Tusk, en place depuis 2007, permettent à ce pays d'affirmer son influence au dehors. Ce qu'on est convenu d'appeler le triangle de Weimar depuis 1991, c'est-à-dire le principe et l'organisation d'une coopération trilatérale entre l'Allemagne, la France et la Pologne, a démontré récemment sa vitalité lorsque leurs trois ministres des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, Radoslaw Sikorski et Laurent Fabius, se sont retrouvés ensemble à Kiev au début des lourds événements que l'on sait en février dernier, pour tâcher de freiner l'escalade de la violence. Ainsi, Paris regarde-t-il plus que jamais vers Varsovie. Ainsi, renaît l'intérêt pour les relations spécifiques que l'histoire a nouées entre les deux nations. J'ai choisi de braquer l'attention sur un long 19e siècle, de 1795 à 1919, c'est-à-dire la période où la Pologne s'est trouvée en tant qu'État, effacée de la carte, ayant été démembrée par ses puissants voisins, et où pourtant, de façon faussement paradoxale, elle n'a jamais été aussi présente dans le cœur et dans la tête des Français. Laurent Theiss, qui est notamment le biographe de François Guizot, et qui connaît tout de cette histoire politique et intellectuelle, va m'aider à restituer cette présence. Il va le faire au cours d'une émission que je dédie spécialement à nos compatriotes français d'origine polonaise, tout comme à nos concitoyens européens de nationalité polonaise qui sont venus séjourner et travailler parmi nous.
Dans la froide Scandinavie, du héros retentit le nom. Soudain, la Pologne asservie se lève pour Napoléon. Il avait brisé les entraves de ce peuple ami des Français. Et la France au rang de ses braves compta les lanciers polonais. Et la France au rang de ses braves compta les lanciers polonais. Sans regret quittant leur patrie, pour Napoléon ses guerriers vont jusqu'aux champs de Libérie cueillir des moissons de laurier. Partout où l'honneur les appelle, ils volent tenter de haut fait. Et partout la gloire est fidèle aux braves lanciers polonais. Et partout la gloire est fidèle aux braves lanciers polonais. Quand la fortune trouva l'âge, quand la plus noire trahison, ensemble ont trompé le courage de notre grand Napoléon. Il fit en déposant les armes de touchants adieux aux Français, et l'on vit répandre des larmes aux braves lanciers polonais. Et l'on vit répandre des larmes aux braves lanciers polonais.
Laurent Hess, bonjour.
Bonjour, Jean-Marc Jeannet.
Je viens de vous proposer les adieux des chasseurs de la garde impériale aux lanciers polonais, une chanson interprétée ici par Aimé Donia. On est là en 1814, en 1815 ?
On est au tournant, puisque ce chant est anonyme et n'est pas précisément daté, on est au tournant de 1814 et de 1815, et ce chant fait écho aux adieux de Napoléon dans la cour de Fontainebleau, et fait allusion à ces lanciers polonais, à ces soldats polonais, engagés depuis longtemps dans les armées napoléoniennes, qui se sont illustrés notamment en Espagne, et les Polonais, ou des Polonais, ont été les derniers à abandonner, ou plutôt à refuser d'abandonner Napoléon au moment de ce qu'on appelle la trahison des maréchaux en mars 1814. Et donc c'est cette fidélité à la France et à l'Empire qui est célébrée par ce chant qui s'appelle exactement « Les adieux des chasseurs à cheval de la garde impériale aux lanciers polonais ».
Je ne sais pas si les pilotes des quatre rafales français que le gouvernement, que notre gouvernement vient d'envoyer en Pologne pour marquer au moins symboliquement notre présence dans le ciel au-dessus de ce pays, au-dessus des États baltes à cause de la crise de l'Ukraine. Je ne sais pas si ces pilotes avaient cette chanson dans la tête, mais on peut imaginer en effet qu'il y ait une sorte de remerciement implicite, non ?
Il y a là une concordance des temps qui n'est pas hasardeuse. Et on peut ajouter qu'à la fin de 1830, lorsqu'a eu lieu la grande insurrection polonaise, certains ont proposé, peut-être de façon un petit peu comique, d'envoyer des troupes par-dessus l'Allemagne en ballon pour rejoindre la Pologne et la délivrer du joug russe. Et Béranger aussi avait écrit une chanson qui s'intitulait « Vol ou mon coursier, vol en Pologne ».
Nous avons choisi le 19e siècle pour y concentrer notre curiosité, mais évidemment les relations sont plus anciennes, même si à l'époque de l'Ancien Régime, plus encore du Moyen-Âge, les distances étaient beaucoup plus grandes et ce pays apparaissait lointain du point de vue de la psychologie française.
La distance n'est pas un obstacle. Il faut se souvenir qu'au 11e siècle, une reine, Anne, est venue de Kiev pour épouser un roi français, Anne de Kiev. Mais la Pologne, telle que nous la connaissons, commence vraiment d'exister en 1569, ce qu'on appelle la République, puisque c'est le nom qu'elle porte, la République des deux nations, lorsque le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie ont été réunis. Quatre ans plus tard, un Français, le duc d'Anjou, le frère cadet de Charles IX, a été élu et a régné en Pologne.
Pour très peu de temps.
Mais il a eu le temps d'édicter ou de faire édicter une législation qui s'appelle les articles henriciens, que les historiens polonais désignent toujours comme tels, articles henriciens, qui ont été en vigueur jusqu'au troisième partage de la Pologne en 1795.
L'autre personnage qui a marqué notre sensibilité, c'est évidemment Stanislas Dzerzhinski, qui a été un moment roi de Pologne et qui ensuite est arrivé à Nancy, qu'il a couvert de gloire.
Oui, il est surtout connu par sa fille, qui est devenue l'épouse du roi Louis XV. Stanislas a régné très peu de temps, de 1704 à 1709, après quoi il s'est réfugié dans sa... On lui a donné cette Lorraine ducale, ce château de Lunéville, dans lequel il a beaucoup brillé. Et ce qu'on doit à Stanislas Dzerzhinski et à cette Lorraine ducale, c'est que le père de Frédéric Chopin, Nicolas Chopin, y est né à l'époque, juste avant que la Lorraine soit réunie à la France, et qu'il est devenu, lui, Nicolas Chopin, citoyen français, et que Frédéric Chopin est donc né français grâce à Stanislas Dzerzhinski.
Le grand moment où vraiment la Pologne va faire irruption dans l'attention de l'opinion publique, c'est évidemment à la fin du XVIIIe siècle, même si on doit d'abord évoquer Jean-Jacques Rousseau, puisqu'il s'est beaucoup intéressé à la Pologne et au fonctionnement assez étrange de ses institutions politiques.
En effet, Jean-Jacques Rousseau, mais aussi l'abbé Mably, mais aussi quelqu'un de moins connu comme Godot, se sont exprimés à vouloir faire entrer la forme d'anarchie polonaise, le système du liberum veto, le système de l'élection du monarque à l'unanimité.
Liberum veto, c'est-à-dire qu'il
l'unanimité fallait... pour toutes les décisions, y compris pour l'élection du roi, et qu'il suffisait d'une voix contre pour annuler tout projet. Il faut savoir que la Pologne, en 1791, s'est dotée, elle était le second pays après la Corse, si la Corse est un pays, à se doter d'une constitution. C'est le deuxième pays d'Europe continentale à posséder une constitution qui a pris en effet dans l'apport des philosophes mais aussi des discussions qui commençaient d'avoir lieu à l'Assemblée nationale constituante en France.
Fort en retrait, en réalité, quand on lit ce texte par rapport à ce qui s'est passé en France, mais fort en avance par rapport au système antérieur.
Elle précède chronologiquement la Constitution française, puisqu'elle est du 3 mai, alors que celle de France est du 3 septembre. Et d'autre part, par rapport à ce qui existait en Pologne, le progrès est immense. On pourrait la comparer à la charte de 1814, qui a en effet, dans un certain style d'Ancien Régime, donné à la France des libertés nouvelles. La religion catholique, par exemple, est proclamée religion nationale, mais la liberté de culte est assurée à toutes les collectivités, notamment protestantes. La Pologne a été un pays très largement protestant au XVIe siècle, mais également au culte israélite, ce qui n'était pas répandu partout.
L'aristocratie polonaise, qui tient le pays depuis longtemps, accepte à un moment une diminution de ses pouvoirs et de ses privilèges par rapport au monde paysan qu'elle domine.
Alors, les bourgeois, qui n'étaient pas admis à la diète polonaise jusque-là, le sont grâce à cette constitution de 1791. Également, les paysans qui ressortissaient de la juridiction de leur seigneur passent désormais sous la juridiction d'État, ce qui est une forme d'émancipation tout à fait considérable. Et puis, il y a la proclamation de la séparation des pouvoirs à la Montesquieu, qui là encore n'existait pas dans la Pologne d'Ancien Régime.
Cette période est aussi celle qui voit, par trois étapes successives, le démembrement de la Pologne, qui est saisie de trois côtés, la Prusse, l'Autriche et la Russie, jusqu'à ce qu'à la fin du XVIIIe siècle, elles disparaissent complètement.
Voilà, 1772, premier partage. Un tiers du territoire polonais est partagé entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Second partage en 1793, où dans les deux tiers qui restent, ce sont la Prusse et la Russie qui se taillent la part du lion. Et enfin 1795, où la République des deux nations disparaît complètement, avec son roi Stanislas Auguste Poniatowski, qui retrouve les jupes de Catherine II, dont il n'était sorti que par hasard.
C'est donc la période de la disparition de l'État polonais, mais non pas de la nation polonaise, pendant ce long 19e siècle que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est durant cette période que la Pologne est la plus proche de l'attention des Français et de l'affection de beaucoup d'entre eux.
Je dirais même que la disparition de l'État engendre justement un sursaut et une exaltation nationale qui sont incarnés, peut-être va-t-on parler de lui, par Tadej Kościuszko, qui est fait citoyen français d'honneur en 1792.
Pour l'évoquer, je donne la parole, si vous voulez bien, à un historien polonais. Son accent est à cet égard démonstratif. Dans le cadre de la série Les Grandes Civilisations, on est en 1962, et il évoque une conversation, vous allez voir, avec Charles Péguy à propos de Kościuszko.
Il y a un certain, trop certain nombre d'années, je faisais route avec Charles Péguy à pied quand il rentrait dans son village de Lozère en Vallée de Chevreuse. Je me souviens qu'il m'a lu avec fougue une brochure de Jules Michelet sur Tadej Kościuszko, l'héros polonais, qui s'intitule « Kościuszko, légende démocratique » et date de 1848. L'admiration du grand historien français et ensuite du grand poète de Jeanne d'Arc pour notre célèbre insurgé s'inscrit, si l'on peut dire, dans toute une lignée de gloires internationales. Kościuszko a enthousiasmé les esprits libres de tous les pays au cours du XIXe siècle et sa figure un peu romantique a conquis d'innombrables sympathies en Pologne, en Europe, en Amérique, disons dans le monde. Quant à la France, il est certain que la célébrité de Kościuszko est passée dans une sorte de folklore. Des poèmes, des chansons, des discours politiques, des tableaux, des chromos l'ont popularisé et vous trouveriez dans les bibliothèques le vieux roman de Lamotte, Les Faucheurs de la mort, qui célèbre son épopée et a longtemps fait rêver la jeunesse.
Kościuszko a beaucoup fait rêver, n'est-ce pas, Laurent Theis, la jeunesse du temps?
Oui, parce qu'il est un peu le père noble, si je puis dire, et très républicain de la Pologne qui tente de se reconstituer au XIXe siècle et des rapports franco-polonais, d'autant qu'il a beaucoup vécu à Paris. Après avoir connu Lafayette et Rochambeau durant la guerre américaine, il a séjourné à Paris avant la Révolution. Puis encore, il s'est réfugié après l'anéantissement de la Pologne de 1795. Il est venu en France. C'est là qu'il est resté pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, mais en gardant une distance d'autant plus grande avec Napoléon qu'il voyait l'autoritarisme et l'impérialisme l'impérialisme grandir chez l'empereur des Français. Il s'est donc tenu à l'écart de ce que Napoléon voulait pour la Pologne avec le grand-duché de Varsovie.
Napoléon avait appris à connaître les combattants polonais déjà durant la campagne d'Italie.
Voilà, les guerriers polonais, car la Pologne est une nation dite guerrière, et je crois qu'elle a fait souvent honneur à sa réputation. Eh bien, ces légions polonaises exilées après 1795 sont venues très largement en France et ont composé des légions polonaises, environ 20 000 hommes, ce n'est pas rien, sous le général Dombrowski, se sont engagés à la fin de 96, en 1797, dans les guerres d'Italie contre les Autrichiens et contre les Russes. Et ils ont composé à ce moment-là à la fois des pages de gloire en faveur de l'esprit polonais, de la relation franco-polonaise, puisqu'ils ont aidé au fond à l'émancipation des peuples italiens face à la domination autrichienne et russe. Et ensuite, ces guerriers polonais ont été enrôlés dans la Grande Armée, dans des corps d'ailleurs spéciaux, c'est l'ancien polonais que nous chantions tout à l'heure, et ils ont fait la guerre avec Napoléon, avec les armées impériales, jusqu'en 1814.
Donc c'est dès ce moment-là une composante importante de l'image qu'en France on se fait de la Pologne. Et aussi c'est important quant au fondement d'une affection chez beaucoup.
Bien, c'est une fraternisation d'abord, je dirais, de compagnons d'armes. Quelqu'un par exemple comme le colonel Joseph Kosciuszko, vous savez comment il a été le héros de Somosierra en novembre 1808, en ouvrant la route de Madrid aux Français, en sacrifiant ses lanciers contre un tonnerre de feu déchaîné par les Espagnols et surtout les Anglais. Et véritablement, ça a été un héros français parce qu'il a forcé en Ibérie, comme disait la chanson, le destin de la France. Et il s'est créé là des légendes fondées sur des faits réels, qui ont entretenu cette relation, d'autant plus que les guerriers, les soldats de l'armée impériale se sont retrouvés ensuite en 1830 et 31 et encore dans les insurrections de 1846 avec les leçons qu'ils avaient apprises de la grande armée de Napoléon.
Alors qu'a fait Napoléon par rapport à la Pologne? On a l'impression qu'il est resté un peu à mi-chemin et alors que la légende napoléonienne a ensuite prospéré en Pologne.
Les esprits les moins favorables à Napoléon, s'il en existe, ont jugé que l'empereur avait eu une conception un peu utilitariste de la Pologne. Il s'est agi au congrès de Tilsit, donc à la fin de 1807, de faire pièce au fond à l'Empire russe en recréant dans cet espace d'Europe centrale qui paraissait au fond voué à l'anarchie ou au néant, créer une structure polonaise, le Grand-Duché de Varsovie, mais placée sous la royauté nominale du roi Auguste de Saxe, comme d'ailleurs à la fin du XVIIIe siècle, mais en réalité gouverné militairement par le maréchal Davout et civilement par l'abbé de Prat. Mais ce grand-duché d'Lituanie, créé au début de 1808, élargi encore en 1809, comptait, au moment de sa plus grande extension, plus de 150 000 km² et 5 millions d'habitants. Ce n'était pas rien, et surtout, Napoléon a pu y lever des troupes à hauteur, au plus beau moment, de 100 000 hommes, commandés par le futur maréchal et par le prince Joseph Poniatowski, qui était le neveu du roi Stanislas, et sous les ordres effectifs du général Dombrowski, qui était le commandant des légions polonaises en 1797. Voyez cette continuité, en effet, de l'effort militaire polonais aux côtés de la grande armée, qui évidemment a été magnifiée au moment de la mort de Napoléon.
Alors Laurent Theis, il faut que nous nous portions maintenant vers un moment décisif dans cette histoire des relations entre l'opinion publique française, la sensibilité française et le fait polonais, c'est-à-dire la révolution de 1830, et que vous nous rappeliez ce qui s'est passé, qui a été fondamental.
En un mot ou en deux, en 1815, au traité de Vienne, la Pologne a été divisée en trois, la Galicie autrichienne, le Grand-Duché de Posen prussien, et surtout la partie la plus importante autour de Varsovie, qu'on appelait le Royaume du Congrès, qui était en réalité une royauté russe. Il y avait un vice-roi, le Grand-Duc Constantin, qui était installé à Varsovie. On maintenait une fiction de Pologne sous le nom de Royaume du Congrès, avec une constitution au début d'ailleurs assez libérale. Mais après, en 1825, après la mort du tsar Alexandre Ier, le régime russe s'est durci et à la suite de la révolution de juillet 1830 en France, mais aussi de ce qu'on appelle la révolution de la déclaration d'indépendance belge à l'automne 1830, les Polonais ont cru le moment venu, encouragés d'ailleurs par de belles paroles venues de l'Ouest, de Grande-Bretagne, de France et d'ailleurs, pour déclencher, en novembre 1830, une insurrection à Varsovie, une guerre contre la Russie, dirigée d'ailleurs par le général Chłopicki, qui était un ancien général de Napoléon Ier. Après quelques victoires remportées en février 1831, il y a eu le 26 mai 1831, cette célèbre bataille d'Ostrołęka, qui a figuré dans beaucoup de chansons, elle aussi. Grande défaite polonaise, et Varsovie est reprise avec une forte répression en septembre 1831. Mais pendant 10 mois, eh bien, il y a eu cette insurrection polonaise et ce moment de joie, d'allégresse en Pologne, et surtout d'ailleurs à l'étranger aussi, il faut bien le dire, où c'était un premier printemps des peuples, le second devant venir en 1848.
C'est d'ailleurs à Paris que le poète Casimir de Lavigne rime ce qui va devenir un chant patriotique essentiel, c'est-à-dire la Varsovienne, qui a été mise en musique par Aubert et que je vais vous faire partiellement entendre, Laurent Thaïs.
Il s'est levé, voici le jour sanglant, qu'il soit pour nous ce jour de délivrance. Dans son essor, voyez notre aigle blanc, les yeux fixés sur l'arc-en-ciel de France. Au soleil de juillet, dont l'éclat fut si beau, il a repris son vol, il prend les airs, il écrit pour ma noble patrie. Liberté, ton soleil, pour la nuit du tombeau. Polonais, à la baïonnette, c'est le cri par nous adopté. Quand roulant le tambour répète, à la baïonnette, à la baïonnette, vive la liberté, vive la liberté. Son éclairon polonais à ton rang, puis sous le feu ton aigle qui s'élance, la liberté va la charge en courant. La victoire est au bout de ta lance, victoire à l'étendard que l'exil embrasa, des lauriers d'Austerlitz, des palmes d'Idumée, Pologne bien aimée, qui vivra seule à vivre et qui morflait déjà.
Laurent Theis, nous venons d'entendre ce que, en France, on appelle la Varsovienne, d'après Casimir de Lavigne, interprété ici par Villa Bella, une musique d'Aubert. C'est un disque d'ailleurs de 1939, restauré par la diligence et l'efficacité de la discothèque de Radio France, que j'aime toujours à saluer et à remercier.
Sans vouloir mettre un bémol sur le contrut de ce ténor, il est facile à Paris de crier à la baïonnette aux Polonais là-bas. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, l'opinion française, ou tout au moins une partie d'entre elles, se prend de passion pour la cause polonaise. Et le premier à le faire, je crois, si vous m'autorisez une citation qui ne sera pas très longue, c'est Armand Carrel, que nous avons toujours cité, pas seulement parce qu'il est mort en duel, Armand Carrel, fondateur du journal Le National, qui fut un républicain et un patriote, qui écrivait ceci le 13 décembre 1830, c'est-à-dire quelques jours après le début de l'insurrection.
Il est mort en 1834.
Voilà. Les Polonais sont les Français du Nord. La France n'hésite pas à regarder la cause des Polonais comme la sienne. Notre gouvernement, c'est celui de la monarchie de juillet, notre gouvernement est plutôt l'ami des spoliateurs du Congrès de Vienne. Il ajoute, il y avait plus de fierté sous le jupon de la Pompadour, faisant allusion en 1772 au premier portage à la protestation française à laquelle Madame de Pompadour avait pris part.
Que ce disque soit de 1939, c'est aussi...
Évidemment, montre une conjonction. Le retour de la cause polonaise, puisqu'on sait ce qu'il advient à ce moment-là, en septembre 1939, de la Pologne, envahie par l'Allemagne nazie.
La France entrant
en guerre pour la Pologne.
Mais restons en 1830. Le gouvernement du temps, celui de Louis-Philippe, est pris évidemment entre deux préoccupations, c'est-à-dire suivre l'opinion publique, une partie d'entre elles, et aussi ne pas provoquer de guerre internationale. Je suis frappé du propos qui est resté célèbre du ministre des Affaires étrangères, Sébastiani, qui dit, lorsque l'insurrection est écrasée en Pologne, la tranquillité règne à Varsovie. On a résumé ce mot sous le terme « l'ordre règne à Varsovie ». Il y a une fameuse lithographie de Granville qui est extrêmement efficace parce qu'elle montre le tsar écrasant la malheureuse Pologne.
Cela fait partie de ces mots malheureux dont certains ministres de la République ont pu plus tard être eux-mêmes prodigues. Sébastien n'était pas encore exactement informé de ce qui se passait à Varsovie et il a eu ce mot évidemment très malheureux.
On peut penser aussi à Claude Cheysson, le ministre des Relations extérieures de François Mitterrand.
Naturellement, nous n'allons rien faire.
Bien entendu, nous n'allons rien faire. En décembre 1981, au moment où Jaruzelski, en Pologne, impose sa férule.
Bien, il disait en effet ce qui était la réalité. Mais il y a des expressions qui sont malheureuses employées. Le texte que je viens de lire de Armand Carrel, celui, la proclamation à la Chambre des députés de Lafayette en septembre 31, toute la France est polonaise. Et les réponses que fait le ministre, évidemment, montrent la contradiction ou la difficulté dans laquelle se trouve le gouvernement français, mais aussi celui de la Grande-Bretagne, qui est lié à lui dans cette affaire. D'un côté, dit Carrel, si nous n'intervenons pas en Pologne maintenant, c'est la Russie qui, un jour, interviendra sur le Rhin et démembrera la France. C'est ce qu'il écrit dans un numéro peu postérieur du National. Montalembert, d'un autre côté, dira à la tribune de la Chambre des Pairs, notre sort se joue en Pologne. Et si nous ne faisons rien, eh bien, en effet, nous laissons le champ libre à la Russie.
Le courant qu'incarne Montalembert, ou bien Lamennais aussi.
Lamennais qui a écrit cette hymne fameuse, puisque c'est un texte religieux, cette hymne fameuse en faveur de la Pologne, d'or. « Oh, ma Pologne », ils disent que c'est ta tombe, je sais que c'est ton berceau. Enfin, c'est un très beau texte de Lamennais qui a pris parti, lui aussi, dans son journal L'Avenir, en faveur de la Pologne, comme tous les catholiques libéraux. Catholiques libéraux et, au fond, patriotes républicains poussent des cris en faveur de la Pologne en demandant pour certains l'intervention. À quoi répond le gouvernement ? Que la raison d'État peut-être commande, peut-être pas, c'est que si nous voulons intervenir en Pologne, qui est prêt à faire la guerre, à lancer 200 000 hommes par-dessus l'Allemagne pour faire la guerre en Pologne contre les Russes ? Aucun de vous, messieurs. Bon, que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut bercer les Polonais d'illusions ? C'est ce que dit Montalembert. Il faut les encourager, il faut leur dire que nous pensons à eux, que nous les aimons, que nous prions pour eux. C'est la phrase de Michelet en 1846 au Collège de France, qui est une très belle déclaration, je la cite. « Je prie Dieu pour la victoire d'un peuple auquel nous songeons tous, car où est notre âme, messieurs ? Sur la Seine ? Non, sur la Vistule. » Mais que faire ? Et si on n'intervient pas militairement et personne n'y songe, car ce serait une mise en branle qui mettrait l'Europe dans un chaos et dans une fièvre à feu et à sang. Et sinon, faut-il se contenter de vaines paroles ? Eh bien, c'est ce que dit le gouvernement, c'est ce que fait le gouvernement. Tous les ans, à l'occasion de l'adresse au roi, la Chambre des députés vote un texte disant que la glorieuse nationalité polonaise ne périra pas.
C'est ce qu'on appelle une résolution.
C'est ce qu'on appelle une résolution. Et le roi répond, certes, nous pensons à la Pologne, mais le ministre commente, comme nous ne pouvons pas faire la guerre pour la Pologne, ce n'est pas la peine d'appeler les Polonais à se soulever, car nous ne pouvons rien pour eux. Et c'est même Lamartine qui répond à Montalembert en 1836 en disant, il n'y a aucune solution possible pour la question polonaise, à moins d'une conflagration générale qui n'est dans la pensée de personne. Et Lamartine, se disant, est un opposant, est un romantique pur jus, très favorable, par son cœur catholique et par son exaltation patriotique, très favorable à la Pologne.
La question aussi se pose pour le gouvernement de savoir comment traiter les émigrés polonais en France, qui sont extrêmement bruyants, très présents, chacun fait du bruit comme 10.
Ne donnons pas plus d'écho qu'il ne convient à une certaine caricature du Polonais facilement alcoolisé.
J'ai rien dit de tel,
Non, mais nos prédécesseurs, même les historiens, l'ont dit, et les bourgeoises de Paris s'en sont plaints quelquefois. Le fait est qu'en quelques mois sont arrivés environ, entre fin 1830 et début 1832, près de 10 000 émigrés polonais, soit des hommes politiques, soit des soldats, soit ce qu'on appelait à l'époque des agitateurs, le même Lamartine disait un peu plus tard, en 1848, les Polonais sont l'armée révolutionnaire en Europe. Et ceux qui s'exilent sont évidemment les plus anti-russes à un moment où nous sommes encore dans le système de la Sainte Alliance et des traités de Vienne. Et donc le gouvernement à la fois les accueille, 5500 d'entre eux sont pensionnés à raison d'un franc 50 par jour par le gouvernement français. Les élites sont bien traitées et bien installées. Songeons à Adam Mickiewicz, nommé professeur au Collège de France en 1840. Et puis, les plus bruyants, les plus agités, sont en effet éloignés de Paris quand ils font trop de tapage.
Oui, alors du coup, par exemple, on voit le ministre des Affaires étrangères, Victor de Broglie, obliger tous les signataires d'un appel qui avait été adressé de France aux libéraux russes par les Polonais. Il les oblige à s'installer à plus de 50 km de Paris, loin de toute grande ville. Puis il y a le cas de ce professeur d'université important qui est obligé de s'exiler en Belgique. Il s'agit de Le Level, qui est accompagné dans sa marche vers la frontière belge avec une émotion réitérée, notamment un grand banquet à Arras. Tout ça est symbolique.
Le Level, qui mérite toute notre estime, n'est pas seulement un professeur. C'est un révolutionnaire professionnel qui dirige ce comité polonais dit rouge, qui appelle à l'insurrection contre les Russes, mais aussi en France, à l'insurrection armée contre le gouvernement français.
J'avais choisi ma définition.
Ce sont des choses qu'un gouvernement peut difficilement accepter. Cela dit, peut-être aurait-on pu être davantage compatissant.
Il y a des personnages qui prennent une grande place, évidemment. Frédéric Chopin.
Alors, Frédéric Chopin n'est pas, à proprement parler, un exilé de l'insurrection, puisqu'il apprend l'insurrection à Varsovie lorsqu'il est déjà à Stuttgart. Il venait de toute façon vers l'ouest. Mais naturellement, il n'est pas retourné en Pologne parce que sa musique a repris, reprenant des thèmes polonais, des thèmes musicaux polonais, tombait sous le coup de la loi russe. Il faut savoir que les hymnes polonais, chantés en polonais sur des musiques polonaises, étaient interdites même à l'intérieur des maisons privées à partir de 1825.
Il joue donc un rôle essentiel du point de vue de l'opinion publique française, Chopin. Et c'est lui, par exemple, quand il compose ses polonaises, c'est pour un bal magnifique qui a lieu à l'hôtel Lambert. L'hôtel Lambert, où nous devons nous arrêter un instant, puisqu'il a été un haut lieu de la présence polonaise en France. Cet hôtel Lambert magnifique qui avait été construit par Levaux au XVIIe siècle et qui malheureusement a été outragé tout récemment par un affreux incendie après qu'il a été acheté par un riche propriétaire du Qatar.
Avant le Qatar, en 1840, le prince Adam Czartoryski, qui est la figure emblématique de toute la Pologne depuis avant la Révolution française jusqu'à sa mort, qui est dans les années 1867 ou 8, si je ne me trompe, le prince Adam Czartoryski, qui était immensément riche, s'était installé là avec un comité polonais qu'on appelait les Blancs. À la différence de Le Level, qui était un rouge, lui était un blanc, c'est-à-dire partisan plutôt, autant que faire se peut, de la solution diplomatique, c'est-à-dire d'obtenir de la tutelle russe que des libertés, comme la liberté par exemple de parler russe, la liberté de pratiquer facilement la religion catholique, la liberté de s'assembler dans des sociétés savantes, soit accordée aux Polonais du royaume du Congrès. Et c'est entre 1840 et 1870 que d'un point de vue culturel, intellectuel, historique, se sont déployées les grandes heures de la Pologne, et Frédéric Chopin s'est rendu là, en effet, et il faut bien reconnaître qu'il est, avec quelques autres, la figure la plus séduisante que la Pologne puisse offrir au monde.
Il est aussi à l'origine de la création de la bibliothèque polonaise, qui aujourd'hui encore est dans l'île Saint-Louis, comme l'hôtel Lambert, quai d'Orléans.
Il y a toutes sortes, à partir de 1832, se sont créés toutes sortes d'organismes à Paris, le premier étant cette société démocratique polonaise, dite rouge, celle de Le Level, à côté de laquelle s'est créée une société littéraire polonaise qui, elle, est présidée par Czartoryski, qui se trouve encore quai d'Orléans, cette librairie polonaise qui est aujourd'hui boulevard Saint-Germain mais qui vit toujours, et puis également, en 1842, l'école polonaise des Batignolles, qui se trouve aujourd'hui rue Lamandé, d'ailleurs depuis longtemps, avec une magnifique statue de Mickiewicz dans sa cour, il faut aller la voir, et qui a été subventionnée dès l'origine par le gouvernement français et qui a été subventionnée jusqu'aujourd'hui puisqu'elle fonctionne encore.
Une des grandes personnalités qui va beaucoup compter, c'est évidemment Mickiewicz qui est nommé professeur au Collège de France sous cette même monarchie de Juillet.
Victor Cousin. Victor Cousin a créé pour lui une chaire d'études slaves au Collège de France.
Et voici une lettre de Mickiewicz qui est adressée à Michelet et à Quinet. Mais c'est un peu plus tard, c'est après la révolution de 1848 qui marque une autre étape majeure dans l'histoire que nous évoquons, c'est-à-dire la place des Polonais dans les sensibilités françaises au XIXe siècle. La lecture est d'Henri Poirier, c'est un extrait des Matinées de France Culture du 26 avril 1990. Adam Mickiewicz.
aux citoyens Michelet et Quinet. Citoyens, l'établissement de la République française inaugure l'ère de la liberté des nations. Vous êtes de ceux qui avaient pressenti cette ère. Vous avez travaillé à en préparer l'avènement. Les Français jouissent déjà de la plénitude de leur liberté politique. Vos frères polonais sur la terre de France sont encore esclaves. Une législation inique livre leur sort à l'arbitraire. Vous avez vu l'exemple de cet arbitraire frappant un de vos collègues à titre de polonais. Vous y avez résisté autant qu'il était en vous. C'est à vous de prendre maintenant l'initiative d'une mesure générale dans l'intérêt de tous les Polonais. Présentez, citoyens, au gouvernement provisoire de la République une pétition pour demander l'abolition immédiate des lois et règlements qui oppriment les réfugiés polonais. En faisant déclarer les Polonais égaux à vous devant la loi, vous accomplirez le premier acte de la délivrance politique de la Pologne. Salut et fraternité, Adam Mickiewicz.
Salut et fraternité, j'aime bien cette formule.
Elle est reprise évidemment de la Grande Révolution.
D'analyser cette lettre comment ?
1848 comme 1830, cette seconde révolution du 19e siècle, est l'occasion de remettre sur la table diplomatique et politique, à la fois internationale et française, la question polonaise. C'est ce second printemps des peuples qui gagne en effet à nouveau la Pologne, mais aussi, comme vous le savez, l'Allemagne et les peuples qui composent les empires centraux.
Moins qu'ailleurs, d'ailleurs, en mineur par rapport à 1830.
Certainement, parce que la Russie tient la Pologne sous sa férule d'une façon très solide. Et la Russie, vous le savez, n'a pas été atteinte par les mouvements de 1848. Mais les Polonais en France restent nombreux, se prennent, c'est bien compréhensible, d'enthousiasme pour cette révolution de février 1848 et appelle à une égalité citoyenne, comme on dirait aujourd'hui, puisque la totalité des Polonais n'a pas été naturalisée naturellement après 1832. Ils réclament au fond une nationalité franco-polonaise qui leur donne les mêmes droits que les citoyens français au moment où le suffrage universel est établi en France.
Il y a des soutiens, il y a aussi des oppositions. Vous évoquez les catholiques libéraux, il y a une continuité de blâme du Vatican à l'égard des tentations de révolte de cette nation pourtant catholique. C'est une continuité. Et quand on pense à Jean-Paul II, évidemment, on se dit, saint Jean-Paul II, on se dit qu'il y a, Laurentès, une vraie rupture, puisque notamment le pape Grégoire XVI, en 1832 et 1833, avait donné instruction aux évêques de Pologne de légitimer la conduite du tsar, Nicolas Ier, au nom de l'obéissance au pouvoir établi. Cela frappe. Il disait, maintenant qu'avec la grâce de Dieu, la tranquillité et l'ordre sont rétablis, de réfuter les principes trompeurs répandus par des prophètes du mensonge et de prêcher la soumission au pouvoir institué par Dieu. Ce bref, évidemment, a beaucoup indigné Lamennais et les autres catholiques libéraux en France.
Naturellement, parce que Grégoire XVI est un pape tout politique, ce qui à l'époque se comprend mieux qu'aujourd'hui. Et le thème de la liberté, notamment de la liberté de conscience, de la liberté de culte et des libertés politiques qui sont étroitement associées chez les libéraux, n'était pas compatible avec la doctrine romaine telle qu'elle avait été établie par la Sainte Alliance.
Il y a un personnage, évidemment, qui mérite comme toujours l'attention, c'est Victor Hugo, du point de vue de la Pologne. Il s'est beaucoup intéressé à la Pologne, notamment après 1848, mais même avant, puisqu'il tient un discours à la Chambre des Pairs en mars 1846, où il demande au gouvernement français de Louis-Philippe de soutenir moralement la Pologne contre les Autrichiens, après une insurrection que nous n'avons pas encore évoquée, qui a été vite écrasée à Cracovie en février 1846. Un discours d'ailleurs qui a été froidement accueilli à la Chambre des Pairs. « Deux nations entre toutes, disait Victor Hugo, depuis quatre siècles, ont joué dans la civilisation européenne un rôle désintéressé. Ces deux nations sont la France et la Pologne. » Victor Hugo pensait souvent à la politique de façon binaire. La Pologne repoussait la barbarie quand la France repoussait les ténèbres. Là, le rempart et ici, le flambeau. L'une, c'est-à-dire la Pologne, se dévouait pour défendre l'Europe. L'autre se prodiguait, la France, pour l'élever et la mûrir. Là, le chevalier, ici, le missionnaire. On dirait peut-être le militaire et l'intellectuel aujourd'hui.
Voilà, Victor Hugo commence à ce moment-là à donner à sa foi dans l'Europe et dans les États-Unis d'Europe toute sa dimension. Il aura aussi, en 1852, une lettre admirable écrite aux Polonais. « Aux Polonais, je vous admire. » vous êtes les aînés de la persécution. Cette coupe d'amertume où nous buvons aujourd'hui, nous y trouvons la trace de vos lèvres, car il vient de partir en exil.
Évidemment, il va vivement critiquer les prudences de Napoléon le Petit, de Napoléon III à l'égard de la Pologne, des prudences qui, avec cette sorte de zigzag qu'a connu la diplomatie dans les années 1860, va finalement faire que l'Empire va perdre sur les deux tableaux quant à la Pologne.
En 1855, au congrès de Paris qui clôt la guerre de Crimée, la Pologne était inscrite à l'agenda, au moins implicite. Mais c'est l'Italie qui est venue, et la Pologne, en dépit que le ministre des Affaires étrangères fut le comte Walewski, donc fille de Marie Walewska, polonaise pur jus, eh bien...
Vous voulez dire qu'elle a été la maîtresse, vous rappelez qu'elle a été la maîtresse de Napoléon Ier.
Voilà, c'est ainsi qu'Alexandre Walewski est venu au monde.
Et le fils naturel de Napoléon.
Voilà. Et par conséquent, le sort de la Pologne a été abandonné à lui-même. Les Polonais se sont insurgés encore une fois entre 1861 et 1864. Et ensuite, une chape véritable s'est abattue sur la Pologne qui a été entièrement russifiée pour la partie où elle ne l'était pas encore.
Et c'est précisément à ce moment-là, au moment de la dernière insurrection polonaise avant la Grande Guerre, c'est-à-dire 1863 en effet, que l'on voit de nouveau l'opinion publique française se dresser pour célébrer les Polonais alliés de toujours, les malheureux Polonais opprimés, alors que la police française de Napoléon III donne aux Russes la liste des agents polonais qui cherchaient des armes en France. Ce n'est pas le plus brillant moment de cette histoire.
Non, le règne de Napoléon III, d'ailleurs, est entaché de beaucoup de macules de cette sorte. Mais ce qui me paraît intéressant, comme vous le disiez très bien, c'est que 1863 est le dernier grand cri du cœur des Français pour la Pologne. Et on en trouve la trace, notamment dans une œuvre très populaire dans laquelle j'ai été élevé, peut-être vous aussi, Jean-Noël Jadenet, qui est la comtesse de Ségur. C'est en 1863, au moment où l'insurrection polonaise, celle de Mirolaski, est la plus forte, avec un gouvernement clandestin, avec des prises d'armes très violentes, que la comtesse de Ségur, née Rostopchine, il faut le rappeler, donc fille d'un russe, écrit deux romans.
Alors, Dourakine.
Alors, les deux Nigauds d'abord, et le général Dourakine ensuite. Les deux Nigauds ont deux personnages principaux, qui sont deux Polonais qui ont combattu à cette bataille d'Ostrolenska le 26 mai 1831, et qui se retrouvent pensionnés de la France dans les années 1860, qui ont des destins tout à fait extraordinaires, puisque le second finit par être naturalisé, malgré tout sous le Second Empire, et épouser quelqu'un dont nous connaissons tous le nom, qui est Prudence Gargilet, qui devient de ce fait une héroïne attachée à la mémoire de la Pologne. C'est Prudence Crépinet, non pas Gargilet. Gargilet, c'était le nom de son maître. Et puis surtout, le général Dourakine, où le personnage de la deuxième partie est le prince Roman Pajarski, un Polonais engagé dans les armées russes, comme il l'était la plupart des officiers, mais qui en même temps gardait au cœur l'ancienne Pologne, avait fait chanter chez lui des hymnes polonais en polonais, avait été dénoncé par des Russes, avait été envoyé en Sibérie en 1856, et il arrive chez son ancien patron, le général Dourakine, qui, extraordinairement, se trouve être catholique, ce qui pour un officier général russe de pure souche était très rare, et il y a là, chez la comtesse de Ségur, des accents déchirants contre les Russes, dont elle est d'origine, et en faveur de la malheureuse nation polonaise. Les souffrances de la malheureuse Pologne me navrent, dit une des héroïnes, la nièce du général Dourakine. Et c'est donc un dernier moment où la Pologne est popularisée comme la nation souffrante, la nation crucifiée. Il y a un thème christique de la Pologne qui s'est développé depuis les années 1840 et qui continue jusque au milieu du Second Empire. La Pologne criant sur le crucifix, c'est un texte de Simon Ballanche. Pourquoi, Europe, m'avez-vous abandonné ?
D'ailleurs, on peut rappeler à propos de la comtesse de Ségur, je suis sûr que nos auditeurs et nos auditrices vont se précipiter dans leur grenier pour retrouver leur bibliothèque rose. Du coup, je remercie Laurentès de célébrer ainsi, de faire ressurgir ainsi la trace de la comtesse de Ségur, de rappeler qu'elle incarnait une opposition légitimiste, un peu repliée sur les terres provinciales au système napoléonien.
Oui, elle s'était transformée en une sorte de fermière normande liée aux aristocraties locales, dont elle travestissait les noms, mais qui étaient eux-mêmes transparents, et qui menait en effet, puisqu'elle a écrit aussi des livres fameux, en faveur des oeuvres pontificaux contre Garibaldi. Donc il y a toute une histoire de l'Europe à lire dans la comtesse de Ségur, mais là, l'hymne à la Pologne catholique contre Napoléon III, et contre les Russes, est extrêmement présent.
Il y a un geste aussi qui est resté célèbre, Un mot, un cri, c'est celui de Charles Floquet, un avocat qui sera ensuite une dignitaire de la Troisième République, président du Conseil, chef du gouvernement. Charles Floquet qui, en 1867, le tsar venant visiter l'exposition universelle et se trouvant au palais de justice, surgit en robe noire, et s'écrit
« Vive la Pologne, monsieur !» C'était le 6 juin 1867. Ce cri a fait merveille, puisque la voix de Floquet, j'imagine, est étonnante. Et il faut savoir aussi que ça s'est mal passé pour le tsar, puisque Alexandre II, pourtant le tsar libérateur, qui a fait beaucoup pour la Pologne, puisque l'après-midi, un exilé polonais, Brylowski, lui a tiré deux balles sur lui. En criant « Vive la Pologne !», on criait « À bas la Russie !» et qu'un émigré a joint le geste à la parole.
À partir de la fin du Second Empire, Laurent Theiss, on entre dans une période plus calme. La Russie, cette fois, a vraiment en main la Pologne et on n'assiste pas à de nouvelles insurrections propres à stimuler l'indignation et la compassion et la solidarité en France.
Le silence s'abat sur la Pologne à tel point que Alfred Jarry, publiant en 1897 Ubu Roi, que nous avons tous su quand nous étions potaches, dit en tête « L'action se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. » Preuve que la Pologne a disparu des esprits et des cartes.
Il faut donc attendre la montée des périls, c'est-à-dire le début du XXe siècle et la marche vers la Grande Guerre, pour que la Pologne, à nouveau, figure au centre des préoccupations des politiques et des intellectuels.
Alors, en 1914, quand en effet les tensions montent et que la guerre est en vue, eh bien, on s'intéresse à nouveau à la Pologne, ou plutôt aux Polonais, qui sont répartis entre les trois empires centraux, la Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, et le Reich. Et donc, des déclarations commencent à fuser ou à sortir en faveur des Polonais pour les attirer dans tel ou tel camp. C'est ainsi que le grand-duc Nikolaïevitch, qui est le chef des armées russes, dès août 1914, déclare que la Pologne pourrait bien retrouver une unité et une indépendance, en promettant l'abolition des frontières existantes et la régénérescence de la Pologne, une Pologne libre. En novembre 1916, c'est le tour des empires centraux, de l'Autriche et de l'Allemagne, de faire une déclaration promettant la restauration d'un royaume de Pologne, quel qu'il aurait pu exister à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, c'est le président Wilson. Bref, tous les grands, si je puis dire, tous les grands protagonistes du conflit tâchent d'attirer à eux les Polonais. Et il faut dire qu'ils arrivent à des résultats, puisque on est bien obligé de dire, d'ailleurs ça n'a rien d'infamant, que beaucoup de Polonais vont combattre du côté autrichien, Piłsudski le premier d'ailleurs, Joseph Piłsudski, qui est le grand homme d'abord du Parti socialiste polonais, qui a été créé en 1892 à Paris, qui est ensuite devenu une sorte de chef de guerre nationaliste, très anti-russe, et qui dès 1914 mobilise des légions à l'intérieur ou à côté de l'armée autrichienne pour aller combattre les Russes. Lorsque le gouvernement provisoire de Russie, début 17, déclare que la Pologne, à son tour, que la Pologne, elle aussi, pourrait revivre, eh bien, il dirige, cette fois, ses armes contre l'Allemagne pour libérer la partie ouest de la Pologne, de sorte qu'il est interné par les Allemands. Bon. Piłsudski, le nationaliste et socialiste pur, qui combat contre l'ennemi le plus proche de la Pologne, d'abord la Russie, ensuite l'Autriche et ensuite l'Allemagne.
On comprend en tout cas que le Quai d'Orsay était très satisfait, le ministère français des Affaires étrangères, notre diplomatie, qu'on ait été très, très satisfait de ce côté-là, de voir les déclarations apparemment libérales du tsar Nicolas, puisque sinon on était pris entre une tradition issue des Lumières, l'autodétermination des peuples, une indignation pérenne quant à la disparition de la Pologne et d'autre part le prix de l'alliance franco-russe.
Oui, c'était évidemment une déclaration opportune dont on peut penser éventuellement qu'elle a été inspirée par des milieux français. Mais j'ajoute tout de même ce point précis, c'est que la diplomatie française, le gouvernement français, même ce que j'appellerais l'intelligence française, ne s'est déclarée pour la Pologne qu'assez tard. Par exemple, en 1915, Clemenceau, qui n'est pas encore au gouvernement, qui dirige l'homme enchaîné, fait une déclaration qui détonne par rapport à l'attitude du Quai d'Orsay.
Ce n'était pas la seule fois.
Non, mais un jeune homme qui s'appelait Edmond Privat, un Suisse, qui militait en faveur de la Pologne, a été écarté par le chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Sous la pression de l'ambassadeur de Russie à Paris, Zvolsky, ce jeune Suisse n'a pas pu faire obtenir une déclaration en faveur de la Pologne. Il l'a obtenue de Clemenceau en 1915 dans son bureau, dont nous pouvons d'ailleurs lire une phrase, car on ne le cite jamais trop, Georges Clemenceau.
En effet.
« Vous avez raison, dit-il, la résurrection de la Pologne est un idéal français ancien. Elle aura lieu, croyez-moi. »
La Pologne revivra, écrit-il d'autre part dans L'Homme libre, dès août 1914, c'est-à-dire plus tôt. L'un des plus grands crimes de l'histoire, c'est toujours Clemenceau qui écrit ou qui parle, va prendre fin. Et puisque la guerre où notre vie même se trouve engagée est pour l'Europe une guerre de libération, plus elle accroîtra le nombre de libérés, plus notre victoire sera française par une nouvelle extension du droit entre les peuples, par un nouvel apport de liberté. C'est aussi pour ça qu'après le traité de Versailles, Clemenceau est devenu si impopulaire à Vienne et à Budapest parce qu'il n'a pas pu s'opposer, il n'a pas souhaité s'opposer au démantèlement de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Qu'il faut attendre en fait la fin de la guerre pour que le sort de la Pologne se définisse vraiment.
Alors la déclaration Wilson de janvier 1918 fait de ces 14 points fameux, le 13e point est consacré à la reconstitution de la Pologne, qui devient officiellement un but de guerre. Et c'est quelques semaines plus tard, après cette déclaration Wilson, que la France et la Grande-Bretagne déclarent que la Pologne, la reconstitution de la Pologne, est en effet un but de guerre. Et c'est ensuite, en février 1919, que la reconnaissance pleine et entière de l'État polonais et de son gouvernement a été actée.
Comment se définit à l'époque la présence des Polonais en France? Il y a toujours des exilés, mais qui pour beaucoup d'entre eux se sont francisés, comme il est naturel. Et il n'y a pas encore ce grand afflux de travailleurs polonais qu'a connu le Nord, notamment pour l'exploitation des mines.
À ce moment-là, il y a en France une légion polonaise qui est commandée par le général Allaire, qui comporte plusieurs milliers d'hommes, 5 ou 6 000.
Là, vous parlez de la guerre déjà.
Je parle de la guerre. Donc en 1918, ces soldats sont là. Certains repartiront en Pologne, d'autres vont rester. Donc on estime que 100 000 Polonais sont morts au cours du conflit, d'un conflit qui ne les concernait pas directement, puisqu'à ce moment-là, l'État polonais n'existait pas. Il y a donc du sang versé dont les alliés se sentent comptables au moment du traité de Versailles et de la reconstitution de la Pologne, qui a pris effet le 11 novembre 1918, lorsque Piłsudski a été libéré d'une geôle allemande, est venu à Varsovie et a constitué un premier gouvernement.
Et c'est à la suite de cela qu'un personnage digne de beaucoup d'intérêt, Paderewski, qui était un grand pianiste, un grand homme de culture musicale, est devenu, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres cas de grands musiciens chefs d'État, est devenu président de la République.
Il y a eu ce président de la Lituanie pendant un certain temps, qui était un musicologue et un organiste exceptionnel, Landsbergis.
Eh bien, Paderewski est celui à qui s'adresse le ministre des Affaires étrangères de Georges Clemenceau, Stéphane Pichon. C'était un des fidèles de Clemenceau qui avait déjà été au Quai d'Orsay lors du premier gouvernement Clemenceau entre 1906 et 1909. Pichon, au nom de la France, écrit cette lettre à Paderewski. Il y a de la noblesse et c'est en même temps un ton très classiquement diplomatique.
À son Excellence, Monsieur Ignace Paderewski, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères du gouvernement polonais. Paris, le 23 février 1919. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le gouvernement de la République française a décidé de reconnaître officiellement la Pologne comme État indépendant et souverain, et son gouvernement appuyé sur la volonté nationale comme gouvernement régulier. Des liens immémoriaux unissent la Pologne et la France. Dans aucun pays, la renaissance de votre patrie, après un long martyre qui n'a pu l'abattre, a été souhaité plus ardemment qu'en France et n'y aura un plus grand retentissement. La Pologne rentre dans la vie des nations par la victoire de ses troupes, de nos soldats alliés, sur les ennemis des peuples libres, et cette victoire est le gage de l'avenir heureux de votre patrie. C'est avec une profonde émotion que je vous adresse les vœux de la France pour le bonheur et la prospérité de la Pologne renaissante. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.
Ce salut du gouvernement français à la Pologne renaissante, Laurent Theis, se situe dans la continuité de beaucoup des aspirations que nous avons évoquées à travers le 19e siècle du côté de la pensée libérale, c'est-à-dire politiquement libérale, envers la Pologne.
Il a fallu une guerre mondiale pour parvenir à cette résurrection, ce qui à la fois donne raison à ceux qui ne désespéraient pas de la Pologne, mais donne aussi un peu raison à ceux qui pensaient qu'il n'y avait qu'une conflagration générale qui pouvait ressusciter la Pologne. D'une certaine manière, les politiques et les intellectuels ou les romantiques se sont retrouvés, et Ignace Paderewski, avec sa mèche prodigieuse, c'est une espèce de Chopin redivivus.
Alors voilà des retrouvailles. Vous ne pouvez pas vous empêcher, Laurent Teige, de saluer le réalisme des Sébastiani, des Guizot et des Victor de Broglie, contre ce qu'il peut y avoir de romantisme à vos yeux un peu échevelé chez ceux qui se sont passionnés pour la Pologne, qui ont crié « Vive la Pologne, monsieur, au tsar !»
Charles Floquet ne réclamait pas, je crois, une guerre mondiale. Et vous avez vu que Lamartine lui-même, et d'autres encore, et même Michelet, n'ont jamais appelé à prendre les armes en France pour la Pologne. Il y a ici la raison, ailleurs le sentiment. Quand ils peuvent se conjuguer, et comme ils le font dans certaines personnes ou dans certains événements, dans certaines circonstances, naturellement, l'allégresse envahit nos cœurs.
Clémenceau, Pichon, 1919. La suite a été plus cahotante, évidemment, avec l'évolution de la politique à Varsovie. Que diriez-vous pour finir de ce qu'il peut rester de traces dans les relations entre les deux pays aujourd'hui de cette histoire spécifique que nous venons d'évoquer?
Alors, pour la conjoncture immédiate que nous évoquions, la France et la Pologne se sont trouvées encore unies lorsque Piłsudski, devenu chef de l'État et aussi toujours chef des armées, a repoussé une offensive russe dans les années, au début des années 20, avec l'aide d'un état-major français dirigé par le général Weygand, où le capitaine de Gaulle a tenu une place éminente. Et il y a eu beaucoup de fraternités d'armes qui se sont reconstituées à l'occasion de cet épisode, mineur en tout cas pour les Français, moins pour les Polonais, et qui prend la suite au fond de cette espèce de galerie de portraits et d'événements rythmés par des chansons que nous avons évoquées depuis Kosciuszko jusqu'à, les Polonais les plus contemporains, en passant par Poniatowski, qui restait un nom, souvent pour le meilleur, parfois pour le moins bon, mais ce sont des noms qui habitent l'imaginaire ou le souvenir de France. Nous avons beaucoup de compatriotes que vous saluiez en commençant, qui sont d'origine polonaise. Il y en a eux aussi, on ne peut pas s'empêcher de citer Kopaszewski, devenu Raymond Kopa.
Eh bien, il sera intéressant dans les semaines, dans les mois, peut-être dans les années prochaines, de voir si ce passé continue de peser de façon positive, en somme, dans nos relations avec la Pologne d'aujourd'hui, qui sont, me semble-t-il, vouées à se développer et à s'intensifier forcément compte tenu de la conjoncture planétaire que nous constatons aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent Teisse. Vous avez, je le rappelle, entre de nombreux ouvrages, certains consacrés au Moyen-Âge, vous avez donné une biographie de Dagobert qui fait autorité chez tous les spécialistes de ce roi. Je veux aujourd'hui citer spécialement votre biographie de François Guizot, parue chez Fayard en 2008. Nous avions naguère évoqué l'actualité de ce personnage souvent simplifié dans la mémoire collective. Nous aurons l'occasion de vous proposer sur notre site les références de nombreux documents, mais je voudrais en faire émerger particulièrement le livre de Jerzy Lukowski et Hubert Zawadzki, à mon avis ils sont d'origine polonaise, « Histoire de la Pologne », paru chez Perrin en février 2010, et puis le livre d'un universitaire qui a beaucoup contribué à faire connaître cette histoire, Daniel Beauvois, « La Pologne, histoire, société, culture », aux éditions de La Martinière, paru en 2004. Vous pourrez bien sûr, à partir de notre site, notamment écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, une émission un peu sombre, puisque nous parlerons de la torture dans la Rome antique avec le spécialiste de cette période qui est Yann Rivière. Hélas, il semble que sur notre planète aujourd'hui, ce soit un thème qui garde quelque vitalité. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou et par Nathalie Lempereur, réalisée par Patrick Molinier, avec la prise de son Jean-Guilain Meige, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Gwen Michel pour les Archivina. Et dans quelques instants, comme chaque samedi, vous allez retrouver Dominique Rousset et ses invités pour l'économie en question. Yeah.